Et on part à présent pour New York, où l'on retrouve Sandrine Mérez. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Sandrine, on va essayer de comprendre quelque chose de la culture américaine très très contemporaine avec vous. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une culture aux États-Unis. Ben, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple pour qu'on voit jusqu'où va le délire. La direction de Ben & Jerry, qui se trouve à Vermont, a dit... Mais attention, parce que je crois que même vous, à New York, vous allez dire « Non, ils n'ont pas osé ». La direction de Ben & Jerry à Vermont a dénoncé une décision raciste et sexiste, je répète, raciste et sexiste, la décision de Unilever de ne pas boycotter entièrement Israël. Alors déjà, pour y voir du racisme là-dedans, il faut faire fort, mais alors du sexisme, il faut nager en plein délire. Et alors, comment ils font leur sauce? Ils disent, bah parce que notre conseil d'administration aux États-Unis à Vermont est composé essentiellement de gens de couleur et de femmes. Ils ont pris la bonne décision et après la direction mondiale d'Unilever est revenue en arrière et nous a interdit de boycotter totalement Israël. Pour nous, Sandrine, à Paris, c'est totalement incompréhensible comme façon de réfléchir. Et il se trouve que...
Non, il faut un peu comprendre ce qu'est Ben & Jerry. Enfin, il y a d'autres compagnies comme ça, bien évidemment, mais Ben & Jerry, c'est typiquement l'entreprise libérale, progressive américaine. J'ai presque envie de te dire, Bernard, c'est le Bernie Sanders de la glace. Ça veut dire que leur slogan, tu vois, encore aujourd'hui, depuis le début, c'est « on pense que la glace peut changer le monde ». Donc, ça veut dire qu'ils revendiquent haut et fort des combats. Tu as les droits de l'homme et de dignité, tu as la justice sociale, tu as la terre. Et ça, ça passe par des actions qu'ils font au long de l'année. Donc, la réforme de la justice criminelle, les droits des LGBTQ, les droits des réfugiés, la justice raciale, etc. Donc, si tu veux, c'est une entreprise qui, dès le début, un jeu clair qui est celui du libéralisme. Voilà, c'est comme... Et alors, je sais que j'entends souvent en France, puisqu'on voit pas, ce sont des juifs qui ont créé l'entreprise, mais des gens comme Bernie Sanders sont des juifs. Et pour le coup, Ben & Jerry, c'est un peu le Bernie Sanders de la glace, tu vois. Donc, ce sont des entreprises... en plus, il faut connaître l'histoire un peu. Donc, Ben & Jerry a été racheté en 2000 par le gros groupe, donc Unilever, mais a mis le point sur la table depuis le début en disant, nous, on a un board qui est... complètement indépendant. Et il n'est pas question que Unilever nous dicte ni la qualité de nos produits, ni nos décisions du board. Donc, quand Unilever, avant-hier, dit il n'est pas question d'arrêter le marché israélien, Ben & Jerry disent, mais alors, ce n'est pas du tout ce qui a été convenu depuis le début. Nous, on est indépendants, c'est notre façon de penser. C'est notre
alors,
façon
ça,
de
on a commencé à comprendre un peu. Par contre, ce qui reste toujours totalement opaque, c'est-à-dire, mais vraiment, comment dire, c'est un sentiment de je sais pas, d'incompréhension. C'est d'abord déjà le rapport, entre c'est-à-dire, je vais vous dire, Sandrine, moi, il y a encore quelques années, puisque malgré tout j'ai commencé à m'habituer, mais il y a encore quelques années, quelqu'un aurait utilisé la phrase que tu viens d'utiliser ou que vous venez d'utiliser, les glaces peuvent changer le monde, mais j'aurais cru que la personne qui me dit ça est une débile mentale. C'est débile de croire que... Non mais les glaces ne changent pas le monde.
Ouais, mais les entreprises américaines et les CEO, d'ailleurs, les présidents américains, ont toujours pris des dépositions. Je veux dire, mais même ne serait-ce que les fondations. Aujourd'hui, un Bernard Arnault n'irait jamais donner 95% de sa fortune à une fondation comme le font les grands PDG américains. C'est notre mentalité qui s'apprend à l'école. Et puis, il y a aussi cette prise de conscience depuis les années 80 avec ce qu'on appelle en France la communication citoyenne et ce qu'on appelle aux États-Unis le social corporate responsibility. Et donc, toutes les entreprises, ou quasiment toutes, mettent un pied dedans. Récemment, on a vu Nike qui a mis en avant des athlètes qui ont été controversés. Il y a des géants comme Dick's, qui est le géant du sport, ou Walmart, qui est le géant de la grande distribution, qui ont refusé, par exemple, de vendre des armes après des shootings de masse. Voilà, c'est un mouvement qui s'est aussi intensifié pendant les années Trump. On a eu, par exemple, un vendeur d'oreillers qui apparaissait sur toutes les télévisions américaines et qui a été complètement boycotté par les gros distributeurs américains parce qu'il soutenait la campagne de Trump. Pareil, il y a des immeubles Trump qui ont été débaptisés à cause de la campagne de Trump. Voilà, il y a plein de choses. Tout est toujours lié pour revenir aux années Trump aussi. Tu vois, on a des compagnies qui ont arrêté leur financement à tous les députés et tous les sénateurs qui ont soutenu la contestation des élections Et je te parle là de grosses entreprises, American Express, Marriott, Dove, voilà. Donc l'arrêt des financements pour tous ces élus qui avaient voté contre la certification de la victoire de Biden. Pareil pour le PGA Tour, tu sais, le tour de golf mondial qui a décidé de ne plus faire jouer ses joueurs sur le golf Trump. Voilà. Et puis au quotidien, c'est autre chose aussi, ce qu'on appelle le Pride Month, donc le mois de la fierté, donc c'est le mois du mouvement LGBT. Je veux dire, des chaînes nationales comme Target, qui est un peu notre monoprix local, créent même des collections spéciales, tu vois. Et puis la majorité des compagnies ici, mais dans quelques secteurs qu'elles soient, changent leur logo pendant le Pride Month en faisant un logo multicolore.
Ah, voilà. Avec l'arc-en-ciel.
C'est vraiment, ouais, arc-en-ciel. Donc c'est vraiment, voilà. Puis après, il y a effectivement tout le mouvement Black Lives Matter qui a eu un impact ici énorme sur le pays. Mais c'est une façon de penser, et c'est bien pourquoi le mouvement BDS a un impact assez important dans le nombre d'universités, et ça, c'est effectivement extrêmement, extrêmement dangereux. C'est parce que l'Américain a quand même une idée, a des idées, soutient des causes, il l'apprend à l'école. Tu sais, à 3-4 ans, les gosses vont taper aux portes des voisins pour récolter de l'argent pour telle association.
Non, mais ça, moi, je le fais aussi. Et alors ?
Non, mais
faire la tzedaka, ça ne fait pas de moi
quelqu'un.
Non,
mais oui, mais donc petit, on t'apprend à défendre des causes. Après, tu choisis ta cause. Mais si tu veux, l'idée d'avoir une cause, l'idée de soutenir une église, entre guillemets, tu vois, je veux dire, 80% des Américains sont associés à une église, une synagogue, un temple. Donc voilà, c'est les causes sont très fortes. Et les entreprises, ont deux choses qui les motivent, ont deux motivations. C'est répondre aux exigences des clients, mais c'est aussi souvent un sentiment ressenti par le PDG d'entreprise. Et aujourd'hui, tous les grands PDG des sociétés, tous les créateurs des sociétés ont leur propre fondation et défendent leur cause. Donc, c'est
non, mais les Français aussi ont leur cause. Hein. EDF a une fondation qui aide, je ne sais pas, j'en sais rien, mais je sais qu'ils ont une fondation. Donc la fondation, elle va aider, par exemple, les projets dans les banlieues. Je ne sais pas, une autre fondation, Crédit Lyonnais, va aider le développement en Afrique. Tout le monde a des causes. Ce qui est étonnant,
oui,
c'est d'avoir mélangé à ce point-là, comme vous l'avez dit à l'instant, mais il y a d'autres cas. Par exemple, Uber, les livreurs de nourriture, qui avait dit ça sera moins cher si le client est noir. Il faut quand même entendre une chose pareille, qui est énorme.
Non, mais ce qu'on avait dit,
un client noir paiera moins cher. Ouais. Comme on disait hier avec Brett Klein lors du forum des auditeurs, Walt Disney, qui est quand même très très grosse major américaine, qui tranquillement décide que le prochain film Blanche-Neige sera joué par une femme métisse noire. Et si moi, parle comme je vous parle maintenant, alors aux États-Unis, j'imagine que tout un public va dire « Mais il est raciste ce journaliste-là, pourquoi ça le dérange ?» ça me dérange pas d'ailleurs, mais si on joue Blanche-Neige, ça me semble normal que la fille soit pas métisse. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la logique. Ouais. Comment on en arrive
D'abord, Black Lives Matter. D'abord, c'est historique. Hein. Être noir aux États-Unis, Bernard, ce n'est pas facile. Il faut être honnête, c'est pas facile. On n'est pas un citoyen, on est un citoyen qui a peur dans les grandes villes. C'est pas facile. Maintenant que j'ai dit ça, le mouvement Black Lives Matter, ça a débordé dans tous les sens. Et il y a aussi aujourd'hui quand même un ras-le-bol dans une grande partie de la population de tous ces effets dont vous parlez, donc toutes ces dérives qui fait qu'on a été au-delà de ce qu'il fallait faire, donc dénoncer effectivement une situation existante. Mais c'est vrai que Black Lives Matter, ça a choqué l'Amérique. Les images ont vraiment choqué l'Amérique.
Ah ouais, c'est aller trop loin.
Après, souvenez-vous, vous le savez, L'Oréal, par exemple, L'Oréal a changé le nom de ses produits blanchissants. Alors, on ne les apprend plus comme ça. Oncle Ben, ça a supprimé le visage de l'oncle Ben, justement, sur ses paquets de riz. À la base...
Oncle Ben, c'est peut-être le moins choquant. C'est peut-être pas choquant, Oncle Ben, d'Afrique.
Moins choquant, ouais. Non, mais à la base, les sociétés qui ont fait ça ont voulu soutenir leurs employés noirs. Donc, ça partait d'un bon sentiment qui était, OK, la population noire a été extrêmement choquée. Ça a été un déclic. Je ne sais pas si vous voyez...
Ah oui, c'est-à-dire choquée, elle a dit, là, on en fait trop, on nous exclut. C'est ça que vous dites, choqué?
Quand
vous dites la population noire a été choquée, d'abord déjà,
oui,
sachez évidemment que moi,
ouais.
dès les premières images de George Floyd, j'ai été outré. Radio Shalom
en
a parlé
vraiment
avec beaucoup de colère même. Comment on peut faire ça à un être humain? Pas de souci.
Ouais.
Le problème, c'est comme vous dites à l'instant, les dérives. Parce que je vous cède la parole, mais puisque je vous ai interrompu, malheureusement, j'en profite. Il faut savoir que les mêmes qui trouvent formidable que Blanche-Neige devienne une actrice métisse, qu'on me comprenne bien, on arrive à me mettre mal à l'aise sur un truc que je ne devrais pas l'être. Pocahontas, c'est Pocahontas, j'en sais rien, moi. Mulan, c'est Mulan. Je sais pas, je les ai tous vus, j'ai des enfants comme tout le monde. Ok, on est d'accord. Mowgli, c'est Mowgli. Bon. Mais c'est les mêmes qui après nous disent « Ah mais non, le doublage, si c'est une personne noire, il faut que ça soit un noir. Hein. Attention. » Ah, faut savoir, j'ai pas compris. Il y a 2 minutes, il faut changer les couleurs des uns des autres parce qu'elles n'ont pas d'importance. Mais par contre, non, c'est pas possible. Donc là, il y a quelque chose de complètement dingue. Et
oui, alors,
voilà, je vous cède la parole de nouveau.
Oui, non, alors, il y a une période extrêmement compliquée ici. D'ailleurs, toutes les séries américaines qui tournaient avaient mis dans leur scénario l'affaire George Floyd, hein. Vous regardez n'importe quel épisode, là où il y avait un noir dans les équipes, que ce soit les NCIS ou les trucs comme ça, il y avait la prise de conscience des noirs que vraiment ils avaient un problème dans ce pays, que leur place n'était pas évidente. Donc c'est vrai que ça a bouleversé les choses, on a vu les manifestations, on a vu effectivement les entreprises essayer de soutenir leurs salariés dans un premier temps, puis plaire aux consommateurs. Vraiment l'affaire George Floyd a traumatisé le pays. Après effectivement on en arrive aux dérives que l'on connaît ici et que l'on connaît partout. Je veux dire en France, tous les mouvements racialisés sont même parfois un peu plus délicat qu'ici, parce que je les trouve beaucoup plus agressifs. Mais ça, c'est un autre débat.
Ah ouais.
Et après, ça s'est concrétisé dans des actions. Ça veut dire que Microsoft, par exemple, ou IBM ou Amazon ont décidé de ne plus poursuivre les solutions de reconnaissance faciale. Et voilà, Airbnb, Etsy, Microsoft, Uber, vous en parliez, Cisco, ont donné énormément d'argent pour l'égalité judiciaire. Et puis Nike a fait une très grosse campagne qui disait « ne tournez pas le dos au racisme ». Donc ça veut dire « attention, le racisme est là partout ben, ». Pour une fois, faites hâte et recevez l'idée que oui, le racisme existe dans ce pays. Et par exemple, il y a une journée nationale qui s'appelle June 10th, qui est la journée qui marque la fin de l'esclavage aux États-Unis. Et en toute honnêteté, moi, j'y faisais jamais attention avant. Elle était dans le calendrier. Et cette année, elle a pris une importance énorme. Donc cette année, je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Ça fait 15 ans que je suis là, je ne l'avais pas vue. Et cette journée, elle a pris une dimension vraiment particulière, à tel point que dans les entreprises américaines, dans certaines entreprises, c'est devenu un jour férié. Et je te parle d'entreprises comme Uber, JP Morgan, Nike. Voilà. Après, comme tu dis, il y a des entreprises comme Google qui a promis d'embaucher pour avoir 30% de blacks, ce qui paraît un peu fou parce qu'ils ne représentent que 13% de la population. Donc voilà, c'est l'Amérique dans ses extrêmes. C'est l'Amérique dans ses extrêmes. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui s'importe et qui s'importe mal. Et moi, je trouve qu'il s'importe très mal en France. Mais voilà, encore une fois, c'est un autre débat. Parce que je trouve qu'il y a une agressivité en France dans les relations entre les communautés qui, je trouve, est supérieure à celle qu'on vit ici. Enfin, voilà, après, ça, c'est mon point de vue à moi d'ici, à New York.
Non, mais c'est intéressant. Pourquoi nous, on veut vous avoir à New York? Parce qu'on veut comprendre. Donc, c'est intéressant que ça passe les deux côtés de l'Atlantique. Non, c'est intéressant. Ça.
Donc voilà, et pour revenir à Ben & Jerry, on a toujours eu des juges très impliqués, hein. Donc pour finir la boucle, des juges très impliqués dans tous les mouvements sociaux, et il faut se rappeler juste que Martin Luther King, c'est aussi les juifs, qui l'ont aidé.
Mais ça c'est très bien Martin Luther King, hein.
Voilà, mais voilà, je veux dire que... Voilà, donc,
c'est très bien d'aider Martin Luther King, mais lui il n'était pas fou.
Des juifs progressistes et libéraux, voilà, il y en a beaucoup. Alors ceci étant, Ben et Jerry, je ne connais pas leur position, parce que Ben et Jerry sont quand même sortis plus ou moins de la société au rachat par Unilever en 2000. Ils sont restés, mais ils ont plutôt le management quotidien. Donc je ne sais pas, parce que...
Non, ils ne dirigent plus. Les deux fondateurs ne dirigent plus.
Non, non, il ne dirige plus.
De ce que j'ai lu. Ben Cohen, il ne dirige plus son entreprise. Mais bon, non, mais de toute façon, on a compris la culture d'entreprise. Et pour conclure notre conversation, Sandrine, sachez que les marques qui utilisent les mouvements politiques ou sociaux pour vendre, c'est de toujours, c'est éternel. Volkswagen le faisait avec Hitler. Et d'autres l'ont fait avec les hippies dans les années 70. Ça, ne croyez pas. Hein. Les voitures l'ont fait avec les hippies. Tranquille. Et bon, maintenant, c'est Black Lives Matter. C'est plus embêtant si ça tombe sur Israël, mais bon, c'est comme ça. Sandrine Mérès.
Ce n'est pas que ça. C'est vraiment l'impression que les grosses compagnies, elles ont un rôle à jouer et qu'elles peuvent changer le monde de par leurs décisions. Donc, changer le consommateur, donc le consommateur changer le monde. Voilà, il y a aussi cette démarche de vouloir tenter de faire quelque chose au-delà de la vente de leurs produits. Et on en revient à ce que je disais au début, qui était vraiment la communication citoyenne et la corporate social responsibility qui est extrêmement forte dans les entreprises américaines.
Passionnant, passionnant. Merci Sandrine Mérès à New York. Bonsoir à vous.
Bonsoir.